Donc, bonsoir à toutes et tous d'être là pour cette rencontre avec Jean-Paul Colleil autour de son nouveau livre, Les Dithons et autres récits plus sérieux. Nous allons passer à peu près une heure à échanger autour de ce livre, à ce que vous nous racontiez cette expérience d'anthropologue au Mali. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange avec vous si tout d'un coup il manque une réponse, si une curiosité est née au cours de l'entretien. Et tout devrait se terminer un peu avant 20h pour vous laisser le temps à la fois d'aller acheter le livre de Jean-Paul Colleil parce que ça vous n'y résisterez pas avant la fermeture de la bibliothèque et boire un verre. Donc bonsoir aussi à vous Jean-Paul Colleil.
Bonsoir à vous. Mon premier lecteur de grande précision, parce que
de grande précision, on verra. Mais on va donc parler de ce livre, de ces 250 et quelques pages. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est pas un livre qui a été écrit là dans les derniers mois ou les dernières années. C'est vraiment 40 ans de votre expérience d'anthropologue au Mali. Alors, on va détailler tout ça, mais forcément, moi qui vous connaissais pas si bien jusqu'à il y a quelques jours, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qui vous a amené au Mali il y a un peu plus de 40 ans?
Ah, bonne question. Eh bien, en réalité, je m'étais inscrit en sociologie à l'université de Bruxelles. Et on était, bon, il y avait des professeurs passionnants, d'autres moins. Mais on était quand même enseveli sous les études statistiques, le droit, le code civil, la sécurité sociale, les syndicats, enfin toutes choses absolument passionnantes, mais qui nous faisaient un peu saturer. Et on avait un cours d'anthropologie qui était donné par Luc Dehesch, qui est un anthropologue qui a eu un certain renom international, et qui nous a vraiment fait découvrir d'autres aspects de notre humanité dont nous n'avions pas le moindre soupçon. Et donc, encore étudiant, j'ai décidé d'aller voir. Et c'était assez amusant parce que j'étais en même temps séduit par des théories qui, après que j'ai rejetées par la suite, mais qui étaient le Renard pâle de Germaine Dieterlin et Marcel Griot, où il y avait un imaginaire formidable et une pensée du monde métaphysique, etc. Et donc, j'ai décidé d'y aller voir. J'ai pas trouvé vraiment ça, mais d'autres choses. Et l'idée aussi, au départ, c'était d'aller voir comment vivaient pratiquement les Dogons, parce qu'ils étaient très connus, à tel point qu'on parlait de dogonnerie, avec parfois un peu de malice. Et bon, c'est un endroit quand même extraordinaire, qui est dans une falaise, difficile d'accès, etc. Et on ne savait pas exactement, il y avait un livre quand même de Denis Paulme, qui était en rupture par rapport à Marcel Griol, qui était le grand maître à penser de toute cette anthropologie symbolique, mais qui était dans un style un peu démodé. Elle parlait de la communauté paisible par allusion au Moyen-Âge européen, etc. Et on voulait savoir un peu comment il vivait pratiquement, qu'est-ce qu'il cultivait, qu'est-ce qu'il faisait pendant la saison sèche, etc. Et donc, je suis allé voir Germaine Dieterlin, qui était une dame absolument charmante, avec qui j'ai eu des désaccords importants par la suite, mais qui est restée néanmoins charmante, et qui m'a d'abord prêté sa maison chez les Dogons, en disant « allez voir », etc. Mais qui m'a dit « ne travaillez pas chez les Dogons, on les connaît, on est là déjà, nous sommes au complet, et donc allez plutôt plus loin ». Et il y a des gens dont on ignore tout au Mali. Et notamment les Minyankas, une zone assez reculée, dans une ville qui n'était pas encore très importante, qui était Koutiala, mais qui était quand même une sorte déjà de capitale cotonnière, on cultivait le coton. Et il n'y avait absolument rien sur ces gens-là. Il y avait quelques articles de missionnaires, pas très bons, et il y avait un chapitre d'un livre qui était Laissez-nous faux, y compris les Minyankas, qui était basé sur un entretien avec le maire de la ville de Koutiala.
Donc vous avez joué les aventuriers en fait.
Bon, on est allé un peu là. J'étais pas seul, on était plusieurs anthropologues, jeunes anthropologues. Il y avait Daniel Jonkers et Philippe Jespers et un Hollandais qui s'appelait Piet Nangman qui faisait des plans du village absolument merveilleux, qui est malheureusement décédé. Et donc nous sommes allés voir et on a passé un an quasiment au village sans revenir même dans la ville de Koutiala. Et ça, c'était une école formidable. Et on n'avait pas tellement on n'avait pas d'argent du tout, même. Donc, on vivait comme les gens. Et ça, c'était aussi. On n'avait pas ce rapport inégal qu'ont souvent les ethnologues qui passent en voiture 4x4, si possible climatisée, et puis repartent le soir à l'hôtel ou ailleurs.
Donc vous y avez passé un an, mais vous êtes revenu.
Ah, je suis revenu, oui.
Régulièrement.
Ah oui, c'est ça. Alors là, c'est quand même peut-être Germaine Dieterlin, je lui dois au moins ça. Il m'a dit, vous allez voir en Afrique, il y a une chose, on vous prend au sérieux quand vous revenez. Si vous revenez pas, vous êtes un malfaiteur comme les autres. Vous arrivez, vous prenez des trucs et vous partez. Mais si vous revenez, là, vous allez voir, c'est un contact complètement différent. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Et en fait, je me suis beaucoup amusé. J'ai noué des amitiés assez solides, dont malheureusement, beaucoup ont disparu aujourd'hui, parce qu'on vit moins longtemps au Mali qu'en France. Et les services médicaux font souvent défaut. Et donc, les gens de ma génération et sous mes maîtres, disons, de la génération antérieure, ils ont presque tous disparu.
Et vous avez appris le bambara, vous avez appris à parler avec...
C'est un casse-tête, ces histoires de langue, parce que les Minyankas ont appris à l'école qu'ils étaient Minyankas. Eux ne se sont jamais appelés comme ça. Ils s'appellent les Mamara, qui est une déformation de Bambara. Et donc, eux se considèrent... Ils appellent les Bambara autrement. Ils les appellent Chonro, qui veut dire les marchands. Et ils ont une langue qui est apparentée au Sénoufo, et donc est classée dans les langues voltaïques. Mais leur culture dépend très fortement du Mandé, qui est une vaste aire de civilisation, qui est en gros la vallée du Niger, pratiquement, hein, et avec les grands cultes Bambara. Les Bambara non plus ne s'appelaient pas Bambara, mais on les appelait comme ça. Donc ces appellations coloniales sont devenues officielles, elles sont réappropriées par l'administration, ce qui fait que maintenant il y a des associations de défense de la culture Minyanka, par exemple.
Mais vous parlez cette langue ?
Bon, alors je parle...
Un peu.
C'est un peu présomptueux de dire ça, parce que, c'est une grande rigolade souvent. On dit quelque chose et puis on introduit un contresens parce que c'est des langues à ton. Et donc le ton n'est pas tout à fait juste, et au lieu de dire chaleur, on a dit ordure, par exemple.
Pendant ces 40 années, vos enquêtes de terrain portaient sur quoi ? On va en arriver aux dit-on,
oui.
mais c'est presque de la contrebande, les dit-on.
Oui.
C'est une enquête parallèle.
Oui,
donc
oui,
pendant ces 40 ans, quelle était votre carte de visite officielle ?
En fait, les dit-on, c'est une idée de Mengoro, mon co-auteur, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Un type formidable qui a fait 8 ans d'école, qui est un Français merveilleux et qui est un type très intelligent. Et on s'est vraiment fort bien entendu, on s'est formé l'un l'autre. Alors on a toujours dit, bon, c'est pas bien d'avoir un informateur privilégié, il faut croiser l'information, etc. Bon, j'ai fait tout ça. Mais quand même, ça m'a été difficile d'assister à quelque chose d'intéressant sur le terrain sans aller le consulter lui aussi. Et puis, je le faisais lire. Alors, les romans, ça marchait très bien, sauf les romans pessimistes qui terminaient par une catastrophe. Ça, il ne comprenait pas pourquoi on écrivait des livres comme ça. Mais il a lu Troya et tout ça, il aimait bien. Mais il a aussi lu nos productions. Et il dit, mais c'est terrible, nous, comment ça se fait qu'on s'amuse sur le terrain et puis que vous écrivez des bouquins pareils que personne ne peut lire, quoi. Donc, c'était assez marrant. Et donc, très vite, on s'est dit, on va essayer de restituer un peu l'ambiance de ce que nous apprenons au fil des jours sur le terrain.
Non, mais ça, c'est le résultat de ce livre.
Voilà,
mais officiellement,
officiellement,
vous y allez faire quoi ?
Alors là, c'est assez amusant aussi parce qu'à l'époque, c'était... Moi, j'ai fait ma première session d'université en mai 68. Inutile de dire qu'on a été différé au mois de septembre. Et donc c'était assez agité. On était à l'époque, il y avait une sorte de marxisme universitaire qui était assez important avec Althusser et Claude Meillassou, etc. Et on s'était dit, on va essayer de faire une étude sur les modes de production. L'idée, c'était qu'il y avait des modes de production, donc une infrastructure économique qui, d'une certaine manière, déterminait le type de culture que pouvait produire une société donnée. Et donc, on était un peu parti là-dessus. Et donc là, me revoilà un peu comme dans la configuration socio-anthropologie, en train de mesurer des champs et de calculer le poids des récoltes, etc. Mais les gens, eux, passaient tout leur temps à faire des rituels, avec grand renfort de sacrifices. On sacrifiait des poulets, des chiens, des bœufs, des grands festins paysans à la Bruegel, quoi. Et je me dis, tiens, ça c'est curieux, ça figure dans aucun programme d'anthropologie économique, où l'économie, c'est la subsistance, c'est à la limite les biens matrimoniaux, quand il y a des échanges matrimoniaux. Et puis, rien de tout ça. Et donc, et ils s'amusaient beaucoup à faire tous ces rituels. Et donc, moi, j'ai fait ça aussi. Du coup, j'ai bifurqué et je me suis rapproché de ces cultes absolument impressionnants parce que, en fait, c'est une conclusion un peu générale, mais les religions ont besoin de spectacle. Il n'y a pas de religion sans spectacle, sans mise en scène, sans metteur en scène, sans musique souvent, sans danse, sans etc. Et donc, après, ça m'a pris 40 ans de ma vie.
Et vous avez écrit, mais vous avez filmé aussi, parce que c'est une de vos particularités. Oh, vous avez signé quoi, une trentaine de films.
Oui.
Donc tous ces rituels, tous ces grands banquets paysans, toutes ces cérémonies, vous les avez filmés. Oui. Est-ce que le cinéma, est-ce que l'image est un outil important pour un anthropologue? Est-ce qu'on est finalement presque plus proche de la vérité de l'autre en le filmant?
En tout cas, d'une certaine vérité. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut tout dire avec un film, mais je pense qu'il y a des analyses de corrélation qui réclament un niveau d'abstraction que l'image permet difficilement. Mais on peut restituer quand même les ambiances, les tons, la réduction d'un texte. La réduction d'une parole à un texte est très importante. Même quand nous parlons entre nous, il y a des clins d'œil, il y a des sourires, il y a des sourcils, il y a des gestes, etc. Et là, le cinéma permet de restituer ça avec beaucoup de force et on s'aperçoit que le propos change. Un propos, quand quelqu'un dit, quelqu'un qui est malade dit « je vais voir le charlatan ». Il peut dire ça en français, il y a des gens qui parlent français. Bon, quand il dit charlatan, ça ne veut pas dire quelqu'un qui dit des bobards. Ça veut dire quelqu'un qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et donc, ça a déjà un double sens qu'il faut décoder. Et puis, il peut dire, le charlatan, oui, je sais bien que c'est des menteurs, mais quand même, on ne sait jamais. Et donc, on est revenu à un doute. Et donc, il y a toutes ces nuances de... Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'agnostiques ou de gens qui font des paris pascaliens sur un culte, mais aussi éventuellement en prennent deux ou trois cultes au cas où le premier foirerait, etc. Et il y a beaucoup de malice dans la vie religieuse et le rapport que les gens ont au monde, et y compris dans les ménages. J'assistais, je ne sais combien de scènes de ménages qui sont absolument phénoménales.
Du coup, sachant cela, est-ce que avec ce livre, les dit-ons et autres récits plus sérieux, il n'y avait pas une intention un peu quasi cinématographique de faire une fresque sur 40 ans et de glisser votre œil pertinent et en même temps toujours un peu amusé dans les ménages, dans les villes, dans les réunions entre copains, etc.
Oui, je suis plutôt content que vous fassiez ce rapprochement. Je pense qu'il y a effectivement de ça. Et puis, il y avait le souci quand même de restituer aussi... Nous sommes des homo academicus, hein, c'est le titre d'un livre assez célèbre de Bourdieu, où il montre toutes les postures qui sont les nôtres professionnellement. Et bon, ça produit des résultats, on ne peut pas dire le contraire, il y a des livres très importants, etc. Mais il y a aussi énormément de pertes, parce qu'on perd le bain social. Et donc, moi, je crois beaucoup aussi à la démarche des ethnométhodologistes qui se sont un peu flingués eux-mêmes parce qu'ils ont développé un jargon très compliqué. Mais l'idée que le terrain nous sert à apprendre quelle est la compétence que nous devons avoir pour nous conduire bien socialement, pour nous conduire socialement tout court, c'est l'objet majeur de l'anthropologie. Et ça... La narrativité cinématographique est très intéressante pour le faire. Et puis, on sait depuis Dos Passos, Sartre et d'autres, etc., qu'il y a une conversation entre les types de narrativité cinématographique et écrite. Alors, l'un ne peut pas se substituer à l'autre, mais on a besoin des deux.
Et je rebondis sur le terme de conversation, parce que ce livre a été écrit à deux. C'est important de citer Minguro Sanogo, vous l'avez d'ailleurs déjà fait. Lui est malien, vous êtes le Toubab, comme on dit. Lui est devin, dites-vous.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a été initié ?
Il a été initié, oui. Alors lui, c'est un personnage assez extraordinaire, parce qu'il a eu un accident. Et à un moment donné, c'est quelqu'un qui a eu une jeunesse très dure. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un chapitre un peu... Je devais camper le personnage, sinon ça n'avait pas de sens, puisque c'est quand même moi qui écris pour lui aussi. Et donc, j'ai campé le personnage. Et à un moment donné, il gagnait sa vie en faisant du commerce de grains. Et donc, il allait chercher du grain dans les zones où il y avait surproduction et allait les vendre en ville, à Koutiala. Et un jour, il a reçu un ballot de noix de cola. Les noix de cola, c'est des noix rouges ou blanches, comme ça, très lourdes, qui sont des ballots énormes. Et vous savez, dans ces pays, c'est pas seulement le Mali, mais c'est presque toute l'Afrique, on surcharge les camions, il y a tous les ballots, et au-dessus des ballots, il y a les gens, qui sont les gens qui n'ont pas d'argent pour payer d'autres types de transport. Et le camion s'est cassé la figure, et il a reçu un ballot de noix de cola sur la hanche, et il a été estropié. Et donc, il boite très sérieusement. Cela dit, il a une forme éblouissante quand même, mais il boite. Et il ne pouvait plus cultiver. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas pouvoir gagner ma vie, etc. Bon, et sa fiancée l'a lâché, enfin toutes sortes de... Et il a pensé à la divination. Et donc il est parti s'initier. Comme on fait, on va de maître en maître. C'est d'ailleurs assez curieux. Je ne sais pas où est la poule et l'œuf, parce que dans l'initiation musulmane, il y a ça aussi. On va faire, il est bon d'aller faire un tour, d'aller s'initier ailleurs. Et donc, ce qui contredit l'idée de culture locale, enracinée, étanche, qui ne s'exprime que dans ses propres termes et tout ça. Donc, il y a du comparatisme très, très vite. Et donc, il est parti, en particulier au Burkina Faso. Et là, il s'est formé avec plusieurs maîtres, dont l'un était Mossi, ce qui est quand même assez étonnant aussi. Et toutes ces cultures avaient été interprétées comme indépendantes les uns des autres. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des flux de circulation extraordinaires. Et donc, devin, ça veut dire que vous diagnostiquez à partir d'éléments que vous fournissez un client une situation et vous proposez des portes de sortie. On n'est pas non plus dans une culture fataliste, il y a toujours recours. Alors la géomancie, ce qui est donc le fait de tracer des signes dans le sable et de les interpréter, c'est un vrai mystère au niveau de toute l'Afrique. Parce que à peu près le même système à 16 cases, comme on dit, de signes, existe, mais réapproprié par les cultures locales. Et on pense que c'est un traité de géomancie arabe, des Zenati, qui a circulé en Afrique de l'Ouest, à l'époque de notre Moyen-Âge, si on veut, et qui a été réadapté. Et donc, dans les systèmes musulmans, ces maisons sont gouvernées par des grandes figures de l'islam. Et dans les cultures animistes, entre guillemets, c'est des principes ou des forces de la nature ou des héros de l'histoire guerrière. Et donc, chaque signe correspond à un personnage, à un récit exemplaire, un ou plusieurs récits, à une partie du corps ou une partie de l'esprit humain, à une plante, à éventuellement un animal, etc. Et donc, c'est une grille de lecture, mais qui réclame quand même une interprétation. Donc on ne peut pas opposer une sorte de divination qui serait mécanique ou hasardeuse, et puis une sorte d'inspiration. Les deux marchent. Un bon devin est quelqu'un qui interprète mieux que d'autres des signes qui restent susceptibles d'être interprétés de diverses manières.
Et un bon devin est un bon conteur aussi, c'est-à-dire qu'il sait raconter.
Absolument,
j'imagine.
Oui. Et un bon psychologue et un bon toutes sortes. Il analyse la façon dont la personne s'assied, la façon dont elle est habillée, si c'est une femme malheureuse ou un homme désespéré. Ils savent tout ça. Et on n'est pas non plus dans le fatalisme. Il y a toujours une porte de sortie qui n'est pas si loin de la psychanalyse, en ce sens que le devin invite toujours la personne à trouver des ressources en elle-même. La solution est à trouver en elle-même. Ce qui était quand même la révolution de Freud par rapport au médecin externaliste, si on veut, qui plaque un médicament sur une plaie.
Donc, Mingoro a joué à la fois un rôle de passeur,
oui,
de conteur, parce que certains de ses ditons, certaines de, oui, ses histoires sont de lui, en tout cas c'est lui qui vous les raconte, oui, et puis il a un rôle de traducteur, parce que j'imagine que,
absolument,
dans certaines situations, ne parlant pas la langue, oui, vous avez besoin de lui.
Alors c'est là qu'on a été, on est chacun le maître de l'un de l'autre, parce que il m'a avoué un peu tard qu'il ne comprenait pas ce que c'était que la recherche, etc. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, maintenant j'ai compris. Parce que avec le jeu des questions que je posais, tout ça, les histoires de parenté, tout ça, il dit, ah oui, j'ai compris, et tout ça, c'est parce que si le cousin d'un tel, etc. Et donc, c'est passionné pour la recherche. Et donc, je l'ai initié à ça. Et lui m'a initié à la divination et à d'autres choses. Et il était aussi devin parce qu'il était aussi possédé. Donc, pris par un principe qu'ils appellent sitanin, qui est, alors, ça, c'est les musulmans qui ont imposé leur vocable, parce que c'est Satan, bien entendu. Mais eux ne considèrent pas du tout que c'est ça. C'est une force qui peut être mauvaise ou bonne, et qu'il faut savoir employer judicieusement. Et donc, le possédé du Nya, qui est le principal culte sur lequel j'ai fait ma thèse, dit des choses qui lui sont révélées par une instance suprahumaine, venue de la brousse et qui fait des expéditions en brousse pour se ressourcer dans les savoirs naturels.
Donc les deux noms sur la couverture de ce livre publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, c'est important, hein, Golain, Sanogo. Dans la préface, Mantia Diawara dit que vous avez inventé une nouvelle pratique de recherche, une pratique radicale qui affirme l'influence des cultures, contrairement à ce que disait Balandier. Vous en avez conscience ?
C'est pas très gentil pour Balandier, je trouve, mais bon, je pouvais pas corriger mon ami Mantia, qui est vraiment un ami proche. C'est un Malien qui a fait sa jeunesse en Guinée. Et qui a été, toute sa famille a été expulsée par Sékou Touré quand Sékou Touré a expulsé les Maliens. Et puis il a fait des études et il a fait une carrière américaine, ce qui fait qu'il est chef d'un gros département maintenant à New York University. Et moi j'ai enseigné 3 ans là-bas et on est devenus de très très grands amis. On se voit plusieurs fois par an, etc. Et donc on partage ces différentes cultures françaises, américaines, bambara, malinkés. Lui, il est du Nord, il est de Kingi, mais et donc on a des conversations très longues. Et bon, il pense que Balandier et Bourdieu d'ailleurs sont devenus plutôt sociologues plutôt qu'anthropologues parce qu'ils se sont écartés. Du témoignage direct, des dires, de cette sorte de démarche par le bas, de la vie quotidienne avec les gens, etc. Bon, là-dessus, il n'a pas tout à fait tort, mais en même temps, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Balandier, qui, quand même, est arrivé dans les années, fin des années 50, je crois, en Afrique, et a dit « Je ne vois pas de tribu, je vois une situation coloniale ». Bon, c'était assez brillant quand même, et on lui doit beaucoup. Et puis, bon, Bourdieu aussi, ses études sur la Kabylie, et même la distinction sociale, ce livre sur qu'est-ce que c'est qu'être distingué en France, c'est très proche de l'anthropologie.
Mais sans enlever le reproche ou la critique, est-ce que vous avez quand même le sentiment d'avoir fait quelque chose d'assez spécifique, à minima, peut-être pas radical, mais spécifique?
Oui, je pense, oui. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais compris comment on pouvait faire du hit and run, quoi. On arrive, on s'empare de certains contenus, on met ça à la mode académique, on écrit des articles, on va à des colloques, etc. Et on oublie complètement ces gens, même si on parle d'eux pendant 30 ans, on ne les connaît plus, on ne sait pas comment s'appellent leurs enfants. Moi je ne fonctionne pas comme ça. J'ai un rapport de plaisir et d'amitié avec mon terrain. Là, je suis assez désolé parce que je ne peux plus aller au Mali. Pas parce que c'est impossible d'y aller. Je pourrais y aller, mais y aller en rasant les murs et en regardant si on n'est pas suivi et en craignant d'être enlevé, rançonné, etc., bon, ce n'est pas un rapport possible avec les amitiés au jour le jour. Et même mes amis me disent non, ce n'est pas le moment de venir.
Mais quand même, le fait d'être en conversation avec Sadogo, ça oui. compte quand même. Ah, compte. À la fois, ça a compté sur ce terrain et ça compte
bien
encore
sûr,
aujourd'hui.
Alors maintenant, nous rencontrons encore, mais c'est compliqué.
Alors, venons-en peut-être au livre lui-même, les dithons et autres récits plus sérieux. Est-ce que ça veut dire d'abord que les dithons ne sont pas sérieux?
C'est-à-dire, c'est un mode mineur, puisque c'est les racontars, c'est les blablas, c'est les rumeurs, etc. Alors, évidemment, on peut dire que ce n'est pas sérieux parce que ce n'est pas vérifié par des protocoles scientifiques. Mais en même temps, les rumeurs, même dans notre société, sont d'une importance inouïe. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire aussi un chapitre introductif en disant que nous ne sommes pas plus rationnels que d'autres. Et la meilleure preuve, c'est que notre sort quotidien est déterminé par le système le plus absurde au monde, qui est la bourse. qui est un truc entièrement spéculatif et soumis aux rumeurs, et dont le sort de milliers. Il suffit de voir une scène de panique telles qu'elles sont télévisées à la bourse pour se rendre compte qu'on est soumis, nous, tous les jours, à des mécanismes les plus primitifs qui soient. Et donc, ces gens du Mali qui sont dans leur campagne ne sont pas du tout plus primitifs que nous. Ils sont nos contemporains. Ils ont une intelligence de leurs rapports sociaux, peut-être différente, mais on n'a aucun privilège. Et là, maintenant, on n'entend plus parler que de post-truth, post-vérité. Tout est fiction, etc. Bon, où est passé le rationnel là-dedans? Et puis, on sait aujourd'hui, les intelligences artificielles, tout ça, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas, comme moi, vous avez sans doute des expériences, mais moi, j'ai acheté un jour en ligne une parka pour aller à New York où il faisait très froid. Depuis, je reçois des publicités 50 par jour pour des parkas, alors que j'en ai une déjà. Donc, cette intelligence n'est pas intelligente. Donc, je suis dans un site academia.edu là, où on met des articles scientifiques en ligne. Je reçois un message très courtois disant « En fonction de vos intérêts et de vos lectures, nous vous proposons ceci et suis tous ceux que j'ai déjà téléchargés. » Donc, what's the point, franchement? Et beaucoup de choses sont comme ça. Et nous, on sait bien que dans la bureaucratie, on s'en mêle les pinceaux, on souffre, il suffit de faire sa déclaration d'impôt, on a compris. Et puis, les choses s'arrangent quand on parle à quelqu'un. C'est quand on parle à quelqu'un que quelque chose... Alors, comment on va faire avec les intelligences artificielles quand les algorithmes eux-mêmes sont compris par personne? C'est quand même un problème.
Donc, c'est pour ça que ça cause dans votre livre.
Ça cause.
Ça cause beaucoup, il y a beaucoup de dialogues. Comment on peut définir un dit-on? Est-ce que c'est la même chose qu'un on-dit?
Alors, c'est un jeu de mots de Ben-Gourou, en partie involontaire. C'est-à-dire que lui, il a bien entendu qu'on parlait de dicton et de on-dit. Et alors, il a dit, mais moi, je confonds toujours les deux, etc. Et je propose qu'on les mêle ensemble dans la formule « les dictons ». J'ai trouvé ça très bien. Et donc, parce que les dictons aussi, en fait, les ethnolinguistes ou les sociolinguistes savent bien qu'un énoncé tient son sens du contexte d'énonciation. Le même dicton peut être employé dans des sens passablement différents suivant ce qui se passe sur le... Et donc... Donc, on a besoin d'être là et de voir les interactions entre les gens.
Alors, ce livre, qui est un recueil donc de dit-on et de récits plus sérieux, je continue à réutiliser le titre, n'est pas qu'un livre de dicton, parce qu'il y a des histoires aussi très très longues qui s'apparentent à des contes.
Il y a des histoires longues et il y a même des histoires un peu alcooliques sous les arbres quand il fait très chaud et qu'on a vidé plusieurs calebasses de bière et les vieux mignancas se mettent à douter de leur dieu en disant et s'il y avait personne, un peu comme dans la chanson de Souchon. Et donc tous ces dires là sont extraordinaires. Et alors deux types peuvent être couchés sous un arbre et l'un dit à l'autre, est-ce que toi tu comprends les oiseaux? Et alors, l'autre dit, je suis pas sûr. Il dit, moi, parfois, je comprends ce qu'ils disent. Alors, c'est très intéressant, ce genre de choses. C'est un rapport au monde. Et donc, il y a des choses longues, il y a des enregistrements de rituels. Hein, il y a des événements, il y a une scène de ménage un peu dramatique. Il y a des jugements aussi, parce que évidemment, les commérages, c'est un drôle de truc, parce que notre notion du commérage est un peu sexiste en français. Parce que le masculin, c'est compère, et le féminin, c'est commère. Donc, du côté de la mauvaise parole, c'est les femmes. Donc, ça révèle quand même quelque chose. Bon, en Bambara, ça n'a pas ce sens-là. Il y a des mauvaises paroles, il y a X mots pour le dire. Mais il y a aussi des paroles efficaces, des paroles qui engagent l'honneur, des paroles pour lesquelles on est prêt à mourir, etc. Des paroles performatives, où on dit, quand on dit par exemple, voilà, j'en ai marre, je m'en vais, si je faisais ça maintenant, je serais performatif quand même. Donc, c'est des paroles qui créent la réalité dont il parle. Donc, il y a tous ces niveaux de paroles sont dans le livre à des chapitres différents.
Mais qui parle, qui énonce ces dit-on?
Alors, c'est un peu tout le monde. Alors, sauf que je suis obligé de dire, pour des raisons d'objectivité, que j'ai travaillé du côté masculin. Et donc, c'est un peu un livre, quand même, d'une anthropologie de mecs chez les mecs, quoi. Alors, il y a de temps en temps des femmes extraordinaires qui percent le. Mais je ne suis pas libre d'aller dans le monde des femmes assister à leur propre dit-on, etc.
Donc, c'était une impossibilité de votre part.
C'est une impossibilité. Et quand, souvent, c'est même, j'ai des collègues femmes qui ont essayé. Sur le terrain, il y a peu de femmes qui ne s'en réfèrent pas à leur chef de famille, qui accepteraient des confidences seules, etc., sauf peut-être en déterritorialisé, en allant en ville ou quelque chose comme ça.
Alors, vous dites confidence, mais tout n'est pas du registre de la confidence. Non, il y a aussi des paroles publiques,
des paroles
de cérémonie.
Il y a quand même plusieurs femmes. Il y a aussi ces personnages extraordinaires qui, dans les années 80, a pris le karaté. Il y avait un club de karaté qui s'était ouvert à Sikasso, qui était à l'époque une ville assez petite. Et donc, il y avait des femmes qui, secrètement, à l'insu de leur mari, ont appris le karaté parce qu'elles en avaient marre de recevoir des coups. Et donc, elles ont rossé leur mari. Grand événement, etc. Avec toutes les médiations et tout ça. On ne fait pas ça à son mari, quand même.
Est-ce que vous avez... Alors, sur ces dit-on, il y a une formule que vous utilisez que j'aime beaucoup, qui s'appelle les bruissements du village.
Oui,
c'est une jolie définition. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'en apprendre plus en notant comme ça, en enregistrant ces dit-on, en étant celui qui écoute ces gens parler en bas, donc en bas de l'échelle sociale, qu'en faisant des études plus sérieuses? Est-ce qu'on en apprend plus en vous lisant, finalement, qu'en lisant des études d'anthropologie plus académiques?
Ça dépend. C'est-à-dire que si on veut étudier le rapport entre la misère et les cours du cacao, bon, il y a des gens qui font ça très bien, mais ce n'est pas moi. Et donc, je ne dis pas que je suis meilleur, mais ce que je fais... et à mon avis quand même riche de savoir. C'est ce qui me passionne dans l'anthropologie, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on doit capter chez l'autre pour pouvoir comprendre le monde dans lequel il vit et qui n'est pas conçu nécessairement dans les mêmes termes que notre monde à nous.
Comment vous avez choisi ces histoires? Je ne sais pas combien il y en a, une bonne cinquantaine, à peu près,
Oui,
plus,
alors j'en ai beaucoup que je n'ai pas mises pour des raisons X, mais c'est nous deux, dans notre... parce qu'on a passé des heures et des heures à traduire. Hein. J'ai des cahiers avec des traductions mot à mot, qui ne sont pas des traductions phonologiques qui satisferaient mes collègues linguistes, je vois qu'il y en a une là dans le fond de la salle, mais qui sont quand même... qui correspondent à la manière dont les gens les ont comprises, ces paroles, sur le terrain. Et donc, très souvent, avec Mengoro, quand on avait une histoire un peu intéressante, on dit, est-ce que c'est un dit-on ou pas? Et si ça l'était, on avait un petit magnétophone dédié à ça, ou un carnet. Et on notait ça. Et donc, en se disant, peut-être qu'on en fera un jour quelque chose. Et puis, c'est ça.
Alors, donc, ce sont des transcriptions,
transcriptions
de ce que vous avez entendu, vous enregistrer, et ensuite vous avez traduit
alors,
et écrit.
On transcrivait ou pas, suivant l'intérêt qu'on...
Le souci de rendre l'oralité de ces dit-ons a été essentiel dans ce travail d'anthropologue et de restitution.
Oui,
parce qu'on parlait des dialogues, il y a beaucoup de dialogues, et ça donne forcément la dimension orale.
Oui, alors ça, c'est mon... J'ai eu deux éditeurs à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, formidables. Il y avait d'abord Charlotte, qui a malheureusement a quitté la maison, mais qui avait fait une lecture à la virgule près, quoi. Et puis William, qui est là, qui a eu l'idée de remettre, sous forme de didascalie, les formules orales. Parce que c'était parfois assez difficile de comprendre qui parlait, puisque Mengoro rapportait les paroles d'un autre, etc. Donc on a remis en style direct une partie, et ça a donné cet aspect un peu comme comment lire le théâtre, un peu.
Oui, c'est ça. Ça pourrait être des scènes jouées, par ailleurs. Mais d'ailleurs, est-ce que ces dit-on sont juste une expression ponctuelles et factuelles dans une situation, ou est-ce que ce sont des récits ou des contes, même si c'est pas exactement ça, que l'on entend d'une année sur l'autre, d'une période sur l'autre, d'un village à l'autre.
Pas beaucoup. La plupart sont quand même circonstancielles, mais moi je pense que la bonne anthropologie elle est circonstancielle. On peut monter en généralité et effectivement on finit par pouvoir avoir un sens des scénarios, etc. Mais le sens quand même d'une scène, elle dit bien qu'il y a une enceinte physique avec la manière dont ça est. Cela dit, il y a par exemple chez les chanteurs peuvent être des compositeurs-interprètes qui inventent des paroles. Ils les disent, et évidemment, ils se reproduisent quand ils vont de village en village à la faveur des funérailles ou des mariages, etc. Ce sont des artistes payés pour créer de l'émotion. Et eux-mêmes sont émus par leur propre chanson. Et on a comme ça des blues formidables lors des funérailles. Je dis blues parce qu'il y a toujours des chants animés par un sentiment de perte. Et de quelqu'un qui disparaît, hein, parfois un monde qui disparaît. Et donc là, on a une certaine intangibilité, enfin en tout cas une transmission sur une plus longue durée, ou des morceaux de mythes, etc. Alors le problème des mythes, c'est que il y a une fonction mythique, il y a des petits morceaux de mythes à gauche et à droite, mais il n'y a pas de mythologie au sens où ont voulu le faire croire Marcel Griaul et Germaine Dieterlin dans des... où ils ont réécrit un mythe de création dont ils sont les créateurs.
Donc rien n'est jamais figé.
Rien n'est jamais figé. Il y a des petites solidifications. Dans un texte, on peut voir par exemple des formules archaïques que les gens n'arrivent parfois plus à traduire, mais qui sont là. Et donc, on peut penser que celles-là sont venues de loin.
Alors, on ne va pas raconter les histoires les unes après les autres de ce livre, mais par exemple, il y en a une qui me revient comme ça en mémoire, c'est l'histoire du serpent qui est dans le champ. Vous voyez cette histoire-là. Donc, cette histoire-là que vous pouvez peut-être raconter, vous la connaissez mieux que moi, elle est très précise d'un village, d'une communauté. Elle ne peut pas être partagée par l'ensemble des Minyankas.
Non, mais elle est parfaitement compréhensible par l'ensemble. Et donc là, c'est l'histoire d'un lépreux. Bon, la lèpre a fait pas mal de ravages dans la région. Donc, il a perdu ses doigts, etc. Et donc, il a un peu de mal à cultiver. Et un jour, il défriche un nouveau champ et il tombe sur un serpent. Et il veut le tuer. Et le serpent lui dit, écoute, ne me tue pas. Au contraire, garde-moi dans ton champ et tu récupéreras tes doigts. Et à une seule condition, c'est que tu n'emmènes jamais personne d'autre dans ce champ. C'est un privilège qui t'est réservé à toi. Et donc, il rentre chez lui et ses doigts repoussent et tout ça. Donc, tout le monde est très content. Et il part au champ très souvent. Il a beaucoup de récoltes. Ses affaires vont très bien. Sa famille est bien nourrie, etc. Mais sa femme est très, très curieuse parce qu'elle dit, il nous cache quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans ce champ, etc. Et puis, un jour, elle va au champ à son insu et elle voit le serpent et elle dit, écoute, c'est toi qui terrorises mon mari, dans ce champ, je vais te tuer, etc. Et donc, elle a une daba qui est une houe. Et elle tue le serpent. Mais le serpent mort se met à parler, à chanter. En disant, c'est ton mari que tu viens de tuer, tu ne sais pas à qui il doit ses doigts, etc. Et alors, elle dit, je m'en fiche, elle met le serpent dans sa calebasse, mais dans la calebasse, le cadavre du serpent continue à chanter la même chanson. Et puis, elle arrive à la maison, elle le cuit, mais la viande se met à chanter la même chanson en disant, tu as tué ton mari, tu ignores à qui il doit ses doigts, etc. Et puis, toute l'histoire se développe comme ça. Le personnage rentre chez lui constate qu'il y a une viande qui cuit. La viande se met à chanter. Alors, il dit, oh là là, tu m'as trahi, etc. Et il tue Alors, je sais plus, il y a une version où c'est sa mère, une version où c'est sa femme. Je crois que c'est sa femme.
Je crois qu'il tue dans cette version. Enfin, dans votre livre, c'est sa femme.
C'est sa femme, oui. Mais parce que j'ai deux versions. Et alors, il tue sa femme. Une bonne partie de l'auditoire pensait qu'il allait reperdre ses doigts. Et en fait, non, il garde ses doigts parce qu'il tue celle qui a été parjure, en fait. Parce qu'il lui avait fait jurer que jamais elle dirait au champ.
Donc, c'est quoi la morale de l'histoire, ou en tout cas la fonction de cette histoire ?
C'est que quand on ne tient pas la chose jurée, on meurt.
D'où l'importance de la parole.
C'est la parole qui tue. C'est la parole qui tue. Et alors, il y a beaucoup de. Ce sont des sociétés évidemment orales, donc on réfléchit beaucoup sur. Par exemple, on dit un noble ne ravale jamais ce qu'il a vomi, à propos de la parole. Ça veut dire qu'il préfère mourir plutôt que de se dédire. C'est des paroles qui engagent la vie. Celui qui n'est pas noble, horon, concept tambara, c'est quelqu'un qui est prêt à changer d'avis pour sauver sa peau. Donc c'est pas l'idéologie chevaleresque du héros du mandé, etc. Et d'où les métiers de clients qui sont les gens qui font des prestations au bénéfice des nobles qui, eux, sont concessionnaires.
Et la parole, qu'elle provienne du bas de l'échelle sociale ou qu'elle provienne du chef, la parole est importante et engage quoi qu'il arrive.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, ce livre d'histoire en histoire, donc, est un recueil sur 40 ans, Jean-Paul Collaigne, mais il est chapitré et il commence par le sexe. Par des histoires autour du sexe. Oui, pour quelle raison ?
Bah, parce que vous n'ignorez pas que c'est quelque chose qui préoccupe
J'ignore tout.
L'humanité entière. Je veux dire, au moins la psychanalyse nous a appris ça, c'est que c'est quelque chose quand même qui nous intéresse. Et ce qui est extraordinaire dans ces cultures-là, c'est que on n'est pas du tout dans un univers puritain. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'histoires et de mises en scène avec même des artefacts, des phallus en bois, des choses comme ça, des mimes, toutes sortes de choses, qui font que les enfants entrent dans la sexualité sans être complètement éberlués par ce que ça signifie, quoi. Et donc, c'est assez intéressant. Et d'autre part, on est dans des sociétés quand même où il y a... moi, je n'idéalise aucune société. En réalité. Je ne suis pas là pour faire un jugement en termes de bien ou mal, et tout ça, mais j'essaie de comprendre comment ça marche. Dans cette société-là, autour de la ville de Koutiala, et bien sur une assez vaste zone, on se marie par échange, c'est-à-dire que deux familles échangent deux filles. Et donc, si une des filles divorce, la fille d'échange est obligée de divorcer aussi. Et donc, c'est assez conservateur et assez contraignant. Résultat des courses, il y a beaucoup de jeunes gens qui fuient avec une femme. Et donc, ça, on appelle ça couper une femme, ça veut dire la soustraire aux échanges matrimoniaux, à la circulation des femmes, comme disait Lévi-Strauss. Ça n'a pas satisfait tout le monde, mais c'est une expression qui existe. Bon, il y a deux événements qui se produisent. C'est que le premier mariage est un mariage d'échange, mais le deuxième mariage, éventuellement, un homme peut choisir sa femme. Il peut aussi choisir la femme qui est mariée à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ça fait du grabuge. Et donc, il y a toutes sortes de réajustements. C'est la commedia dell'arte du village. Enfin, il y a des conciliabules, il y a des rituels d'apaisement, il y a des compensations matérielles, il y a des sacrifices envers des forces suprahumaine, etc.
Mais du coup, ça donne des ditons un peu surnaturels. Par exemple, le pénis et le vagin sont des personnages à part entière de certaines histoires.
Oui, alors on dit, oui, il y a par exemple l'alliance du pénis et des testicules contre l'anus, etc., en disant, après tout, nous sommes voisins, pourquoi ne pas nous entendre, etc. Enfin bon, c'est assez amusant.
et puis, il y a l'idée que la lutte des sexes est permanente.
Oui,
d'ailleurs, c'est une société assez patriarcale, mais les hommes ont gagné la bataille. Parce qu'au départ, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui refusent les hommes, par exemple, veulent tenir le haut du pavé.
Oui, il y a cette idée de la femme qui rêve d'un mari idéal qui serait intact, il y aurait une peau sans cicatrice, comme un serpent, etc. Et finalement, il se retrouve marié avec un serpent, et toutes sortes d'histoires comme ça. Ou bien une femme qui refuse de s'accoupler avec un homme, et alors elle persuade un lièvre de monter dans un arbre pour couper des feuilles de karité pour la sauce. C'est des femmes très très belles, etc. Trois sœurs. Et finalement, lui, il utilise moult ruses pour abuser d'elles et finalement leur dire, voilà, il se fait passer pour un devin, encore ce personnage ambigu du devin. Et en fait, à la fin, il révèle que c'est lui déguisé, etc., qui a fait un tour de passe-passe et qui a... Et alors du coup, ils disent, oui, ben, c'est, finalement, nous n'allons pas choisir d'autre homme que toi, c'est toi le lièvre qui devient notre mari.
Et puis, il y a aussi des recettes, par exemple, pour lutter contre l'impuissance. Ça peut des fois servir. Oui. Il faut boire de l'eau ferrugineuse.
Oui, c'est ça. Hein? Oui. c'est cette idée de la forge a beaucoup d'importance. Les scories de la forge sont supposées avoir des vertus régénérantes. Enfin, et donc, il y a... Mais les gens y croient dur comme fer, si je puis dire.
Alors, il y a toutes ces histoires qui sont quand même souvent haut en couleur, et puis il y a aussi un vocabulaire très particulier. C'est-à-dire que je peux dire sans être trop vulgaire que vous comme moi, nous sommes assis sur nos petits poussins,
oui, c'est
par
ça.
Exemple.
Ça, c'est une blague que, parce que bon, je me promenais beaucoup dans les quartiers des villages avec mes moraux, et bon, évidemment, il fait très chaud, donc toutes les fenêtres sont ouvertes, etc. Et on voit on roule très lentement parce qu'il y a beaucoup de piétons. Et il voit donc des gens qu'il connaît. Et tout à coup, lui, il est en voiture, ce qui est insolite. On voit rarement une voiture passer dans ces coins-là. Et donc, il y a une femme qui lui dit « Ah, Mengoro, c'est toi qui es assis comme ça sur tes petits poussins dans une voiture. » Et tout le monde comprend que ça signifie cette partie intime. Quoi.
Alors, il est donc beaucoup question de sexe avec humour, toujours, parce que c'est important. Il y a beaucoup d'humour très souvent dans toutes ces histoires et dans ces dictons.
C'est ça qui est quand même intéressant dans l'anthropologie. Hein, c'est que l'humour, il y a peu de place, quoi. Alors que quand on est sur le terrain, il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
Et puis vous aimez ça, vous cherchez l'humour aussi.
Ben aussi.
C'est votre côté belge un peu peut-être.
Peut-être.
Alors il y a beaucoup de sexe, il y a aussi pas mal d'histoires de génies.
Oui.
Alors là, il y a vraiment une surpopulation de génies et comme vous le dites, c'est un des chapitres qui s'appelle « À proximité des génies », c'est-à-dire qu'ils sont omniprésents pour chacun, pour toutes les communautés, à tous les temps de la vie.
Oui, et pour tous les lieux. Par exemple, Bamako aujourd'hui, alors que toute l'actualité nous promène dans les histoires de djihadisme et de l'intégrisme musulman, etc., il n'y a jamais eu autant de génies à Bamako qu'aujourd'hui. Il y a des génies dans tous les quartiers. C'est quand il y a ce qu'on appelle des djinnétons, les danses des génies, et les djinnétons, les sociétés de génies. Et c'est des sociétés à dominante féminine qui ne sont pas des underdogs, des défavorisés. C'est une clientèle, je dis clientèle parce que les gens y vont pour avoir un recours. Et ils sont initiés et ils se soignent un peu comme dans les films de Jean Rouch, etc., par des danses de possession absolument spectaculaires. Et souvent, ces sociétés sont dirigées par des femmes assez extraordinaires. Il y en a une qui est extraordinaire parce qu'elle se fait appeler tout blanc bébé. Et donc, elle a des chaises comme dans les fancy fair avec son nom, tout blanc bébé, peint derrière, etc. Et elle gouverne une société de 300 personnes d'une main de maître. Et avec beaucoup d'humour aussi, et beaucoup de et ça c'est en plein Bamako. C'est
mais alors comment
à deux pas de la résidence de Ibrahim Ibeka.
Comment expliquer la surpopulation de génies d'une certaine façon?
Alors moi je pense que cette pression, bon les génies sont admis par l'islam parce que il y a les djinnés de l'islam qui sont reconnus et Mohamed lui-même a eu affaire à ça. Lui-même a été un petit peu visité. Bon, les wahhabites et autres intégristes n'ont pas envie qu'on dise ça, mais c'est quand même, ça existe dans le Coran. Il y a une base coranique. Et donc, ils se mettent un peu sous chapeau musulman, mais en fait, c'est des systèmes qui ont traversé toute la vallée du Niger avec des noms différents et des panthéons, c'est beaucoup dire parce que les génies changent de sexe, changent selon les zones, etc. Mais c'est quand même assez intéressant. Il y avait Jean-Marie Gibal qui avait écrit un peu là-dessus deux livres sur une zone dans le Mali central, la zone du Massina, là, qui est un peu chahutée en ce moment, et une autre qui était plus proche de Bamako. Et alors lui, il voyait dans les années 70 un déclin, et aujourd'hui c'est en plein boom.
Mais dans ces dit-on, les génies prennent quelle forme et ils ont quel nom ?
Alors, ils peuvent avoir des noms. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des morphologies de cultes très différentes qui ne communiquent pas vraiment entre. Il y a ces djinédons qui ne sont pas dans la zone Minyanka, qui sont dans la vallée du Niger. Et là, le génie peut être, par exemple, avoir le nom de Tama, qui veut dire la lance, qui est un guerrier. Il peut être aussi le roi Salomon de la Bible ou du Coran. Et il a souvent des sœurs, il a un captif, il a un griot, etc. Et alors ces femmes qui sont prises par un génie guerrier, par exemple du Mandé, ont tout à coup des allures viriles, on leur met un costume comme dans les vaudous haïtiens, etc. Et elles paradent avec une grosse voix d'homme en menaçant les gens qui ne se conduisent pas correctement. Et donc, ça, c'est un cas de figure qui ressemble un peu au film de Rouche, hein, sur les sonrails, les ermites, tout ça. Et puis, il y a le Nia, qui est celui qui prenait en possession Mengoro, et où là, c'est différent. Ce sont des hommes qui sont possédés, pas les femmes. Et en fait, l'homme possédé prend dans un sanctuaire, une hutte, une petite maison en toit de paille réservée à cet effet, trois sacs contenant des bolis. Ces bolis sont des, nous on traduit par fétiche, mais ça veut rien dire, mais c'est des amalgames de principes différents. Et donc l'ensemble de ces trois sacs forme un microcosme. C'est pas moi qui l'invente. Les gens disent on t'appelle petit monde, etc. Et donc, il se charge de ces trois sacs et il court en brousse, où il est censé à la fois combattre les sorciers, un peu comme un chaman combattrait dans un autre espace des puissances maléfiques, et aussi ressourcer ses propres forces. Et il y a un enclos qui est aménagé en brousse, dans lesquels on vide les sacs dans des grandes jarres et on fait des sacrifices. Et c'est censé être nourrir Nia, qui revient ensuite. Il reprend ses sacs, tout ça accompagné de musique, etc. Et il revient au village, et dans les bras du sanctuaire, parce qu'il y a deux énormes affluents comme ça, il dit des choses, il donne des recommandations au village. Donc c'est l'organisation d'une voix suprahumaine qui vient rendre visite aux hommes pour leur dire ce qu'il faut faire.
Et donc, si on ne le fait pas, on risque barde. Gros, ça oui. Barde, comme vous dites. D'ailleurs, il y a plein de récits où c'est la faute, l'origine du mal, du malheur, de la mort, etc. C'est la faute de l'homme ou de la femme.
C'est la faute de l'homme, soit une bévue involontaire, soit une faute volontaire. Et c'est une logique implacable, parce que comme il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal dans la vie, le système a toujours raison.
Mais c'est une logique implacable, mais il y a quand même beaucoup de superstitions.
Ah oui, bien sûr, ça n'empêche pas, mais en même temps, quand les gens sont mécontents d'un tirage divinatoire, il y a des rattrapages. On peut proposer des rattrapages. Et puis, les gens peuvent changer de devin. Ils vont consulter un autre devin.
Et on peut peut-être comprendre pas tout à fait ce qui était dit parce que les choses sont dites un peu à demi-mot, façon un peu elliptique parfois.
Oui, ça c'est. Enfin, et devins sont quand même experts à dire des choses qui marchent à tous les coups, quoi.
Oui, vous dites que le principe, c'est qu'il n'y a pas de parole claire.
Oui, c'est ça.
Donc ça permet les histoires, ça permet la fiction, ça permet les interprétations et ça permet de changer de devin.
Ça permet aussi un indice supplémentaire de se manifester qui permet de préciser le message. Et donc, c'est des gens très intelligents. Ces appareils de pensée où il y a une contrainte qui sont les signes divinatoires, mais après, il faut savoir mettre en relation ces signes avec les symptômes ou les indications qu'ont donné les êtres souffrants.
Alors, vous disiez, Jean-Paul Collet, ne pas parler le Bambara, mais quand même dans
Je comprends pas mal.
Vous comprenez pas mal. Et dans le livre, il y a quand même beaucoup de mots spécifiques empruntés à la langue.
Oui.
Pourquoi ce choix d'avoir gardé ces mots-là tout particulièrement? Parce
qu'ils ne sont pas traduisibles.
Vous pourriez dire H alors que vous dites Daba, par exemple.
Oui, oui, bah, la Daba, c'est vraiment. C'est pas. Si on dit « ou », le lecteur imagine immédiatement un très long manche avec une petite lame, alors que c'est une grosse lame avec un très petit manche. Donc c'est une daba.
C'est une daba. Mais pour l'imagination, c'est plus riche quand même.
Oui, oui. Voilà,
d'inventer ces mots, sans compter qu'eux-mêmes inventent plein de mots
et
formules.
Si vous dites un boli, alors tout le monde sait bien en Mali ce que c'est qu'un boli. Si vous dites un fétiche, bon, ça renvoie à toutes les théories primitivisme du fétichisme et tout ça, y compris le fétichisme freudien, et on s'y perd.
Et l'invention linguistique, par exemple, j'ai noté ça parce que ça m'a amusé, l'expression « un raseur de mur », c'est du copier-coller, c'est du traduit ou c'est
traduit,
votre invention ?
C'est du traduit, non, c'est du traduit. J'ai pas fait Jean Rouche, c'est du vrai traduit. Parce que Rouche inventait des mots africains, lui, comme faire boutique d'épaule pour le marchand ambulant et tout ça, c'est dans sa tête. Mais bon, là, c'est le raseur de mur, c'est l'amant. C'est l'amant qui vient nuitamment. Alors, parfois, il y a aussi le fait que, comme c'est quand même une société un peu patriarcale, souvent il y a des hommes âgés avec des jeunes femmes et ils ne peuvent plus vraiment honorer leurs jeunes femmes et donc ils ferment les yeux. Ils savent qu'il y a un raseur de mur qui est de temps en temps. Et ils en récoltent les enfants, qui est toujours une bénédiction quand même dans une famille. Donc, ça arrange tout le monde.
Alors, je vois que l'heure tourne et pour laisser les uns et les autres poser quelques questions, on va peut-être s'arrêter. Mais quand même, est-ce qu'on a brossé là toutes les thématiques de ces ditons ? Il est question beaucoup des fratries aussi, dans les récits que vous avez recueillis et transcrits ?
Oui, oui. Ben, c'est-à-dire, il y a toute une série de choses qui sont un peu en déclin aujourd'hui, qui étaient des confréries, des fratries, des ensembles religieux. Et là, maintenant, on assiste un peu au chant du cygne, mais avec des revivals, comme on dit en français, comme ces cultes de possession Bamako, et aussi les fétiches. Bamako est bourré de boli aujourd'hui, qui viennent de Guinée, qui est un pays encore plus anciennement musulman. Et il y a des sortes de pizzas d'agglomérés de substances complètement diverses, enrobées de sang séché, spectaculaires, et où on peut avoir quelqu'un de l'immigration ici qui envoie une vache, c'est-à-dire qu'il envoie l'argent de la vache au Mali pour qu'on asperge tous ces trucs, qui s'appellent Jafrin, par exemple, ces cultes de chasseurs, qui n'ont jamais été aussi populaires. Et je les ai montrés chez les Minyanka, où ils m'ont dit « Non, ça, c'est très exagéré. Il n'y a que les citadins pour inventer des trucs comme ça. »
Mais en même temps, vous dites que c'est un peu la fin programmée de la Bamanaya.
Oui, oui.
C'est-à-dire cette religion et de tous ces récits qui...
Bah, au train où ça va, aujourd'hui, on ne sait pas. Il est possible que quand même le Mali tombe sous une dictature assez radical. À ce moment-là, on ne sait pas comment tous ces cultes vont pouvoir s'adapter.
Et quoi qu'il en soit, il y a quand même une islamisation de la société.
Une islamisation. Indépendamment, par exemple, indépendamment des... Enfin, la majeure partie des musulmans maliens sont extrêmement tolérants. Extrêmement tolérants. C'est des traditions soufies, c'est-à-dire que chacun peut trouver sa voie vers le Seigneur et il y a une grande liberté de démarche. Mais il y a deux mouvements. Il y a les mouvements djihadistes, divisés entre Al-Qaïda et État islamique, mais quand même très puissants, qui contrôlent une bonne partie du territoire dans le nord du Mali, qui ne sont pas non plus l'horreur que toute la presse occidentale dit, parce que souvent, les gens les trouvent finalement plus accommodants que les gendarmes et les policiers et les soldats. Qui vivent sur le pays depuis toujours. Et donc ça, c'est le nord. Mais il y a aussi un mouvement wahhabite qui n'est pas numériquement important, mais donc c'est l'islam réformé. Eux-mêmes se disent pas wahhabites, ils se disent les gens de l'islam réformé, qui veulent donc un retour aux sources en soustrayant l'interprétation, c'est-à-dire toutes les gloses philosophiques qui ont été, depuis l'époque de Mahomet, ajoutées. Et donc, ils sont pas nombreux, mais ils ont une influence puritaine. Et donc, qui finit par prendre un peu toute la société, jusqu'à même la géomancie, qui est probablement d'origine musulmane, aujourd'hui mal vue, par exemple.
Donc, ce livre, finalement, c'est la trace d'un temps qui va
probablement, oui.
Peut-être disparaître, ou qui a en partie disparu, parce que certains récits datent des années 70 ou 80, et ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui les ont racontés ne sont plus là forcément.
Voilà, il y a des ruptures de transmission, ça c'est quand même catastrophique. Hein. C'est que, en fait, c'est des sociétés très confiantes en elles-mêmes. Elles pensent que les jeunes vont prendre la succession, etc. Mais en fait, les jeunes aujourd'hui, à la saison sèche, ils s'en vont gagner de l'argent ailleurs. Donc, ils sont plus là pour écouter les trucs. Ils trouvent ça très pesant de devoir refaire, de crépir tous ces sanctuaires, faire les décorations, épargner pour faire des sacrifices, etc. Et ils sont braqués sur autre chose, quoi. Et donc, la rupture de transmission de la culture. Et aussi dans l'immigration aussi, les parents travaillent beaucoup, ils travaillent la nuit, et ils parlent plus. Donc les enfants s'éduquent avec Internet, les Playmobil, etc. Il y a un changement culturel très très important, sur lequel je porte pas de jugement, mais et ça n'interdit pas non plus. Aujourd'hui, quand on voit des pays comme le Maghreb, c'est d'ailleurs assez curieux qu'on ait opposé les pays musulmans et l'Afrique noire, comme s'il y avait forcément une différence radicale. Mais il y a plein de cultes des saints dans le Maghreb qui ressemblent quand même étrangement à ce que pourrait être le Nia ou le Combo et tout ça dans les zones Bamana. Et donc, rien ne dit qu'il ne va pas y avoir de création de l'ancien.
Alors justement, avant de laisser la parole aux unes et aux uns dans l'assistance, j'aimerais juste vous interpeller sur, c'est quasiment la dernière phrase du livre, vous dites, grosso modo, j'espère que les Maliens se retrouveront dans ces histoires. Et je me suis dit, mais pour qui il écrit ce livre? Est-ce qu'il écrit ce livre pour nous raconter ce qu'est cette culture différente, ou est-ce que c'est aussi pour leur restituer ce qui vient de...
Oui, non, c'est pour restituer, et en fait, moi, mes exemplaires vont... principalement au Mali, c'est à eux que je voudrais les dessiner, et aussi parce que je pense que ils peuvent légitimement être fiers d'un certain nombre de manières d'être dans leur société, ou amusés, ou intrigués, etc. Et que ça peut peut-être faire du bien dans une actualité qui ne parle que de guerre et de Kalachnikov et de fusils mitrailleurs.
Donc c'est pour eux.
C'est pour eux.
Avez-vous, mesdames et messieurs, quelques questions pour Jean-Paul Collaine? Je suis sûr que oui. Un micro va vous être proposé parce que, bien évidemment, on vous l'a pas dit. Ah bon? Mais la rencontre est enregistrée et sera diffusée sur Canal U. Non, non, c'est vous qui répondez, c'est pas moi. Donc, je vous cède mon micro.
Bonsoir et merci pour cette présentation de ce livre hautement culturel pour les ressortissants africains que je suis. Voilà, je voulais vous poser une question. Avez-vous eu l'occasion de comparer les dithons du Mali avec ceux des autres pays africains proches?
Oui, je pense que le même travail ou la même collecte ou le même type de mise en mémoire pourrait être fait au Burkina, au Niger, au Sénégal. Un peu partout, hein. Et donc, il y a un ensemble quand même assez vaste de cultures influencées par ce qu'on appelle le monde mandé, où ça communique très bien. Alors, si on descend vers le Cameroun et tout ça, on a peut-être des choses comparables, mais qui auront des idiomes différents.
Okay, merci. Est-ce que d'autres anthropologues font ce travail?
Alors, j'ai reçu un message d'un collègue et ami de l'école des hautes études, qui est Gilles Bataillon, qui me dit « Formidable ton idée de livre, parce que j'ai toujours voulu faire ça au Pérou. Et je pense d'ailleurs que je vais le faire. Et donc ça m'a fait plaisir. C'était ce matin. Et donc je pense que c'est vrai un peu partout. Et j'ai eu une étudiante chinoise qui a fait une thèse sur le parler des femmes en Chine continentale. Elle est taïwanaise, mais elle a travaillé en Chine. Et on est assez proche de ce type de problématique.
Non, moi, j'ai une question de musicienne. C'est que ces détentes ont été rapportées en français ou dans la langue locale. Et donc, comment tu as pu restituer la matière, le récit, la rythmique, enfin, toute cette oralité dans cette traduction ? Ça, c'est plutôt ça.
Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a tous les cas de figure. Hein. Il y en a qui ont été enregistrés vraiment dans la langue. Et il y en a d'autres qui m'ont été racontés en français par Mengoro. Il y en a d'autres que j'ai enregistrés sans lui, que j'ai fait traduire après. Enfin, il y a un peu tous les cas de figure. Mais beaucoup ont été filmés aussi. Ce qui, je trouve, si un linguiste veut faire une étude plus fine que celle que j'ai pu faire, ou même éventuellement confronter ma traduction, j'ai pu me tromper dans des choses. Mengoro a pu lui-même se tromper. Un jour, je lui ai fait traduire un texte de chant que je lui avais déjà fait traduire. Et je m'en ai pas rendu compte. Et après, quand je l'ai constaté, je lui ai dit, mais tu me donnes deux versions totalement différentes. Et il me dit, c'est malin, tu écris tout, comment veux-tu que moi je sache? Moi, je n'écris pas, donc ça change. Donc, c'est ce genre d'anecdote. Ouais, Martina connaît très bien le lieu, parce que nous avons tourné un film ensemble sur des musiques. Mais... Oui, c'est oui, voilà. Oui, même en français. Ceux qui parlent français ont une manière extraordinaire de. Parce qu'il y a aussi ces. Alors, il y avait un ami qui Moussa Sow, qui est malheureusement décédé, qui disait. En fait, au Mali, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens qui essayent de convaincre par la parole, et d'autres qui essayent de convaincre par le silence. Et moi, je suis plutôt de ceux-là. C'était un peu, donc, il disait, dans le milieu peul, on considère que le bambara bavarde trop. Et dans le milieu bambara, on dit, mais un peul, c'est assez difficile de savoir ce qu'il pense. Et donc, c'est un jeu de cousinage entre, bon, il s'avère que maintenant, ça peut devenir un peu violent, mais ça, c'est de la politique. Je pense que les rapports, comme ça, de voisinage, un peu comme les Français, les Belges et tout ça, c'est des rapports plutôt sympas, mais évidemment, ça peut prendre des dimensions dramatiques si un programme politique se mêle d'attiser tout ça. Là, on arrive dans des choses extrêmement dangereuses.
J'hésitais à intervenir puisque je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais m'y plonger à l'issue de cette soirée. Mais puisqu'on nous invite à prendre la parole, et je vous en remercie, d'abord merci pour cette belle conversation, je ne résiste pas à dire deux choses. D'abord, combien je trouve votre visage à l'image de ce dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire de cette malice inhérente au Hondi. Alors, à se demander si c'est ce visage qui vous a prédisposé à être sensible, ou si c'est les Maliens qui ne vous ont pas transformé en Malien.
Bon, malheureusement, mon visage, il a pris dans la gueule un peu.
Ça ne se voit pas. Et j'en viens à un autre sujet d'étonnement, c'est que, en principe, tout ce dont vous nous avez parlé devrait m'être totalement étranger. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis jamais allé au Mali, je ne parle aucune de ces langues, etc. Et en même temps, ce que vous nous avez dit m'a paru extrêmement familier. Je me suis tout à fait retrouvé. Et tout ce que vous avez dit est entré en résonance avec un livre qui m'a récemment beaucoup marqué, qui paraît totalement étranger au vôtre. C'est celui d'Yves Citon sur les altermodernités des Lumières. Donc, vous voyez. Au sens où il rend justice à des auteurs méconnus, mais qui arrivaient à circuler sans difficulté entre des discours très raisonnés, rationnels, encyclopédiste, ce qu'on attend des Lumières, et des discours qui se complaisent dans le surnaturel, la magie, etc. Et cette circulation, cet esprit libre, etc., je le perçois dans ces dit-on, voilà, dont vous nous avez parlé. C'est pas une question, c'est juste un retour.
Oui, ben j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'impression que vous avez compris mon livre avant de l'avoir lu.
je l'achèterai quand même.
Bonsoir.
Alors, en vous écoutant, je suis Camerounais et j'ai retrouvé pas mal des histoires que ma grand-mère me racontait, voilà. Du coup, l'une des questions qui m'est passée à l'esprit, c'est peut-être de savoir est-ce qu'il n'y a pas matière à remonter un peu aux origines de pas mal de ces ditons pour en apprendre un peu plus. Parce que ce que vous dites, peut-être ça peut sembler nouveau pour certains, mais pour moi, c'est quasiment dans ça que j'ai grandi. Bien sûr. C'est assez magnifique du fait que moi, je l'ai vécu au Cameroun. On a plus de 200 dialectes, plus de 250 dialectes, mais des histoires similaires se retrouvent au Mali avec une culture totalement différente. Ils sont musulmans, nous on est majoritairement chrétiens. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas lieu de remonter un peu dans le passé pour en apprendre plus?
Sûrement, je pense. Bon, alors évidemment, les périodes passées, elles sont difficiles si... s'il n'y a plus des vieux témoins capables de transmettre une parole qu'ils ont eux-mêmes enregistrée mentalement, hein. Donc là, il y a une perte énorme, il y a une perte culturelle énorme. Franchement, moi, c'est pas une flagornerie du tout, mais j'ai rencontré dans les brousses du Mali des gens hyper intelligents qui n'avaient rien à envier aux grands penseurs d'ici. Et parfois, ils ont disparu sans pratiquement les laisser de traces. Alors, les chanteurs, Martina, ont un peu plus de pérennité, parce que en général il y a quand même quelqu'un qui reprend le flambeau. Et par exemple Noumouké Dao, que nous avons enregistré ensemble et qui figure dans le livre, son fils aujourd'hui chante ses chansons. Et donc le fils de Wakamisoko, on dirait le sosie qui avait fait ce livre avec Youssouf Tata Cissé sur la grande geste du Mali, son fils lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On dirait qu'il est réincarné presque. C'est assez étonnant. Donc les griots, les chanteurs, ils ont une pérennité un peu plus organisée. Mais même sur les sages du village et tout ça, qui sont pas non plus des sages ennuyeux, c'est des sages plutôt rigolos, ils disparaissent en ayant eu un chef-d'œuvre dans leur vie qui était leur vie elle-même. Et il n'en reste rien d'autre, malheureusement. Et donc, une déperdition formidable.
Est-ce que ces récits se retrouvent, par exemple, dans ce que Empateba a pu noter et collecter, qui en fait quand même le premier traducteur par écrit, est-ce qu'il donne une petite... durée historique.
Oui. Mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Empateba. Il y a beaucoup de gens même au Mali, beaucoup de gens qui connaissent pas Yambo Legeb. Il y a une crise quand même de transmission de la culture qui est assez importante. Mais par exemple, L'étrange destin de Wangrin. Bon, alors là, je m'échappe au bas devant ce livre qui était d'une audace formidable, qui était le français cassé, comme il y a eu le broken English, etc., avec Amos Tutola ou des gens comme ça. Et donc ça, c'est des gens qui ont capté l'esprit d'une époque et l'ont incarné dans un roman très largement autobiographique, dans le cas de Empateba.
Dernière question avant de se séparer sur le livre toujours. Donc on l'a dit, c'est 40 ans de vie au Mali. Est-ce que l'idée de ce livre était née il y a 40 ans ou est-ce que finalement il est arrivé beaucoup plus récemment pour des raisons qui vous sont propres?
Il est quand même arrivé à la fin des années 80.
Et pour quelle raison? Parce que vous voyez justement que ces chaînes de transmission s'interrompaient.
Oui, et puis je voulais restituer ces espèces de réflexions amusées sur le monde. Parce que en fait, ce qui passe quand même le plus facilement dans la culture officielle, c'est une certaine affliction. Et je pense que bon, la vie sociale dans toutes ces régions, elle n'est pas faite d'affliction. Même dans des situations parfois sur le plan matériel extrêmement déprimées, les gens n'ont pas baissé pavillon, ils continuent à regarder le monde avec malice.
Donc le mot de la fin serait de vous proposer d'aller lire ce livre, qui est un livre drôle et que vous allez pouvoir trouver à la bibliothèque de la Maison des Sciences de l'Homme. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci à vous.